Père, merci pour les signes de la grâce que nous avons vécus aujourd'hui, déjà au cours de ce culte. Merci aussi pour le témoignage de l'Écriture qui a été conservé pendant des siècles, de génération en génération, pour que nous puissions vivre aussi, ça aussi. C'est un signe incroyable d'une constance dans la foi, d'un amour partagé. Il y a là la pesanteur des siècles et des générations, et des gens qui ont partagé l'Écriture, qui ont partagé l'espérance du royaume. Et nous t'en rendons grâce. Père, au moment de partager le témoignage de l'Écriture, ouvre nos cœurs à cette parole, parce que c'est une parole qui est pleine d'espérance et de vie. Amen. Et je vous invite à entendre deux textes aujourd'hui. Le premier, c'est l'histoire de Bartimée dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10, les versets 46 à 52. Ils arrivent à Jéricho, et comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule, l'aveugle Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord du chemin en train de mendier. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le rabrouaient pour qu'il se taise. Mais lui, il criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta, il dit, « Appelez-le !» On appelle l'aveugle, on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle !» Rejetant son manteau, il se leva d'un bond et il vint vers Jésus, et s'adressant à lui, Jésus dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit, « Rabouni, que je retrouve la vue !» Et Jésus lui dit, « Va !» Ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Et puis, un autre texte qui est tout aussi connu, peut-être encore plus, c'est celui de la Samaritaine. Vous avez 5 minutes? Vous voulez que je vous le lise en entier? On y va? C'est un petit peu long, hein, c'est pour ça. Allez, on va le lire en entier. Hein? Vous voyez? Donc c'est au chapitre 4 de l'évangile de Jean. Hein? Quand Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean, à vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples, il quitta la Judée et regagna la Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il parvint dans une ville de Samarie appelée Sichar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph, la même où se trouve le puits de Jacob. Fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples en effet étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais cette femme, cette Samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, une femme, une Samaritaine ?» Les juifs, en effet, ne veulent rien de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as même pas un seau, et le puits est profond, d'où la tiens-tu donc cette eau vive ?» Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné le puits et qui lui-même y a bu, ainsi que ses fils et ses bêtes ? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif, que je n'ai plus à venir puiser ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari, reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu dis bien, je n'ai pas de mari. Tu en as eu 5, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer. Jésus lui dit, crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient Elle est là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit. Et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Sur quoi les disciples arrivèrent, ils s'étonnèrent que Jésus parlât avec une femme. Cependant, personne ne lui dit, « Que cherches-tu ? Ou pourquoi lui parles-tu ? » La femme, alors, abandonnant sa cruche, s'en fut à la ville et dit aux gens, « Venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville, ils allèrent vers lui. Père, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Voilà, la Samaritaine est Bartimée. Bartimée, ça veut dire le fils de l'impureté. C'est vous dire que c'est un nom qui n'est pas très très positif, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ces deux personnages, la Samaritaine et Bartimée, on a l'impression qu'ils sortent tout droit du catéchisme. Hein, ce sont des gens qu'on connaît depuis très longtemps. Il y a même des chansons enfantines sur la Samaritaine. Moi, j'en connais au moins une. Je ne vais pas vous la chanter parce que vous allez tous rigoler. Mais on est marqué depuis notre enfance par ces deux personnages. Peut-être parce que Bartimée est nommé déjà. Et peut-être surtout parce que inconsciemment, il parle de nous, en fait. Il parle de nous, de notre histoire, finalement, et du salut qui nous touche, véritablement. Et je crois que c'est ça qui fait l'intérêt de ces deux personnages. Alors, la Samaritaine, je ne vais pas faire une prédication sur l'ensemble du texte de la Samaritaine. Il y a tellement de choses à dire sur cette rencontre entre Jésus et la Samaritaine qu'on peut y passer plusieurs heures. Je m'intéresse qu'à cette question. Pourquoi va-t-elle à midi chercher de l'eau ? Voilà. Parce que c'est pas logique. On n'est pas dans quelque chose de normal. Dans les pays chauds et semi-désertiques ou désertiques, on ne va jamais chercher de l'eau à midi, en plein soleil, en plein cagnard, comme on dit, parce que c'est particulièrement pénible. Surtout qu'il faut y aller en portant une cruche sur la tête ou sur l'épaule, je veux dire, et que ça pèse lourd. Alors imaginez qu'en plein soleil, je sais pas moi, par 35 degrés, hein, il faille remonter la route pour remonter à la ville, depuis à la ville avec un machin comme ça qui pèse des kilos sur la tête ou sur l'épaule, on évite. Et on va chercher de l'eau au puits, à la fraîche, soit le matin, quand le soleil n'est pas tout à fait levé ou qu'il est en train de se lever, soit le soir, quand il est couché ou qu'il est en train de se coucher. Voilà. Alors la Samaritaine, elle y va à midi quand il y a personne, pour la raison que je viens d'invoquer. D'ailleurs, il n'y a personne, hein, pense-t-elle. Voilà. Pourquoi est-ce qu'elle va, à ce moment-là, chercher de l'eau ? Le seul intérêt pour elle, c'est pas qu'il fasse chaud, qu'il y a plein soleil ou n'importe, c'est qu'il n'y a personne, précisément. Parce qu'elle ne veut rencontrer personne. Voilà. Ça la gêne de rencontrer du monde. Ça la gêne de rencontrer du monde parce qu'elle a un problème. Elle a une culpabilité, quelque chose qui ne colle pas tout à fait bien. Alors, je ne sais pas, c'est marqué dans le texte, son problème, c'est qu'elle a eu 5 maris et qu'elle a et vit en concubinage avec un 6e gaillard. Mais aujourd'hui, tout est possible dans ce domaine. Hein. Malheureusement, on a une certaine manière de faire qui est peut-être un peu marquée par une certaine légèreté et un certain hédonisme. Hein. On cherche que son plaisir, etc., que sais-je encore. Et que c'est vrai qu'on sait malheureusement qu'il y a un couple sur deux qui divorce dans le monde d'aujourd'hui, en Occident, et que évidemment, on a une approche qui est beaucoup plus libertaire à ce niveau-là. Mais dans l'Antiquité, c'est pas le cas. La Samaritaine, là, avec cette situation, je dirais, matrimoniale et amoureuse, ça pose vraiment un problème. Alors c'est très symbolique, il y a 5, le chiffre 5 lui-même est symbolique, je n'entre pas là-dedans, mais ce que je veux dire, elle a ce problème. Et ça doit tchatcher dans les chaumières, comme on dit, hein, ça doit causer dans les chaumières. Ah, vous avez vu, la Samaritaine est avec son 6e mec, etc., gnagnagna, vous connaissez la musique, hein. Dire. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus, les 5 autres ? Est-ce qu'ils sont morts ? Est-ce qu'elle a divorcé ? Vous pouvez divorcer, hein, je veux dire, pour différentes raisons. Et même divorcer à l'époque au tort du mari, avec quelques cas. Enfin bon, passons, je veux dire. Donc elle a ce problème de relation, visiblement, avec le monde dans lequel elle vit. et elle évite le monde. À un moment qui est important parce que c'est un moment de convivialité. Je veux dire, aller chercher de l'eau au puits, c'était comme autrefois faire son linge à la rivière lorsque les dames se retrouvaient entre elles pour un exercice qui n'était pas facile, surtout quand il faisait pas très chaud, je veux dire, mais où les personnes pouvaient se rencontrer, échanger, discuter, etc. Je veux dire, voilà. Donc elle évite tout ça, elle se met à l'écart, elle s'exclut elle-même. Et c'est là qu'il y a cet homme qui est assis au bord du puits, hein, qui lui parle, ce qui est déjà une première chose. Le simple fait de pouvoir engager un dialogue avec quelqu'un, c'est pour elle vraisemblablement quelque chose qui n'est pas tout à fait aisé, pas tout à fait facile, mais qui quand même va se passer. Et cet homme qui va discuter avec elle va l'amener petit à petit, ce Jésus va l'amener petit à petit à prendre conscience de son problème. Elle va pouvoir dire son problème. Elle va pouvoir le dire. Finalement, le vivre. Jésus va lui dire, t'as bien eu 5 maris, etc. Elle entre dans la discussion, je vois bien que tu es prophète à ce moment-là. Donc elle reconnaît le problème qui lui pèse sur la conscience. Elle en prend conscience. Et c'est ça la première des choses qui est importante dans ce récit, à mon avis, dans l'existence que nous pouvons avoir, nous les uns et les autres, c'est que nous avons en face de nous un Dieu qui est personnel, qui nous permet d'avoir un face-à-face et une discussion avec lui, de telle sorte qu'on puisse lui remettre, finalement, notre vie. La confession des péchés, ce qu'on appelle confession des péchés, parce que un mot barbare est tellement usé et rapiécé qu'il ne faudrait jamais l'utiliser, mais enfin c'est comme ça, c'est un petit peu ça, c'est pouvoir remettre à Dieu notre vie, avec ses bons moments et ses moments difficiles, ses culpabilités, etc. C'est ce qui se passe, finalement, avec cette Samaritaine. Et elle prend conscience de son problème. Je veux dire, et elle est face à quelqu'un qui l'accueille avec ce problème. Et ce qui est tout à fait extraordinaire dans ce texte, moi ce qui m'a frappé quand j'ai fait la relecture de cette Samaritaine il y a quelques semaines, je me dis, bon sang, il y a cette cruche qu'elle dépose à ses pieds. Je veux dire, finalement. Et cette cruche qu'elle porte sur l'épaule ou sur sa tête, vous savez, hein, elle pèse sur son corps, comme le problème qu'elle a pèse sur sa conscience. Et elle dépose cette cruche qui est le signe même de sa finitude et de son problème et de sa culpabilité. Elle le dépose aux pieds de Jésus. C'est ça qui est provoqué par la rencontre avec Jésus. Et ce qui est assez génial, c'est qu'elle repart vers la ville et qu'elle va retrouver les gens de la ville, c'est-à-dire qu'elle se inclut à nouveau dans la ville, elle va retisser le lien, etc., et elle raconte, oui, j'ai vu quelqu'un qui, etc., et donc il y a une sorte d'enthousiasme communicatif qui est là, une sorte de joie qui s'exprime, c'est cette femme, je veux dire, et donc ils vont retrouver Jésus, etc. Alors je pensais à Bartimée, ça, c'est assez intéressant de voir que dans la Bible, les textes se coupent et se recoupent dans le Nouveau Testament. Et Bartimée, c'est à peu près la même chose. Bartimée, c'est son fils d'impureté, etc. C'est un nom qui n'est pas très très positif. En plus, il est aveugle. Et donc, vraisemblablement, voit-on à l'époque cette infirmité comme étant une malédiction. C'est comme ça qu'on interprétait les problèmes dans l'Antiquité quand il y avait une maladie comme ça. On pensait que c'était une malédiction de Dieu. Donc le pauvre Bartimée, il est assis avec ça qui lui pèse sur le dos, finalement. Et il est assis avec son manteau qui est devant lui, qui lui sert de réception pour toucher un petit peu de monnaie quand les gens passent. Vous savez pas, il dépose un peu d'argent sur le manteau, et ainsi de suite. Et puis ce manteau, c'est à lui, ça fait partie de son être, de son corps. Puisque je vous l'avais dit ici déjà, le manteau est inaliénable. On peut tout prendre à quelqu'un, tout. Sauf son manteau, c'est dans la loi de Moïse. Voilà, parce que ça sert à couvrir sa nudité et ça sert à le couvrir du froid, la préserver du froid pendant la nuit. Donc, je veux dire, on ne touche pas au manteau de quelqu'un, ça fait vraiment partie de lui. Or, voilà-t-il pas que, comme beaucoup d'aveugles, vraisemblablement a-t-il une attention auditive qui est assez poussée. Il connaît Jésus, il en a entendu parler, Jésus passe, et là, il a pitié de moi, etc. Il appelle Jésus, et lorsque Jésus l'appelle, il lance son manteau. Et là, c'est pareil. La rencontre avec Jésus, il n'a pas de cruche à déposer, mais il dépose quelque chose qui est le signe même de sa finitude, ce qui lui reste, finalement, tout le reste étant perdu, et il se débarrasse de ça. Il se débarrasse de ça comme la Samaritaine s'est débarrassée de sa cruche. Il remet, comme s'il remettait son être même, ce qui lui reste seulement, à Jésus. Comme ça. C'est une des interprétations du texte. L'autre interprétation, c'est qu'il y a là une entrée à Jérusalem avec les manteaux qui sont déposés aussi. C'est l'interprétation classique. Mais je veux dire, moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant au niveau existentiel de voir que lorsque on a un problème grave, comme celui de Bartimée, eh bien, on peut le remettre à Jésus, on peut tout remettre toute sa vie à Jésus, pour que, effectivement, là, dans la réception que Jésus fait de cette confession, en quelque sorte, eh bien, il se passe quelque chose d'important, quelque chose qui fait vivre, finalement, et Bartimée va voir clair, finalement, et va se retrouver avec le cortège qui entoure Jésus. C'est assez intéressant dans cette double histoire. Vous voyez qu'ils se ressemblent, hein, on est dans des problématiques qui sont semblables, c'est qu'il y a des détails qui sont les mêmes. C'est assez drôle, parce que les disciples, quand ils viennent de la ville et qu'ils retournent au puits rencontrer Jésus, ils sont quand même très étonnés, le terme est assez fort dans le texte, ils sont quand même très étonnés de voir que Jésus a parlé à une femme samaritaine. Ah, ça les a choqués un peu. Et de même qu'avec Bartimée, les gens qui sont dans le cortège, ils rabrouent, je ne sais pas si vous avez entendu le texte, hein, ils envoient balader Bartimée, genre, bah, écoute, écrase un peu, laisse passer le maître, quoi, je veux dire, vous voyez, un peu le genre, quoi. Voilà, hein, on a les mêmes réflexes. Et ça aussi, c'est assez intéressant sur notre notion qu'on peut avoir à la fois de notre rencontre avec Jésus et puis du salut. C'est toujours quelque chose de personnel. Il y a une dimension personnelle très forte qui nous concerne, nous. Une sorte de rencontre dans l'intimité. Ce qui fait que les autres, quelquefois, ne comprennent pas. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous qui ont dit ben « moi je suis chrétien, je suis chrétienne, je vais au culte, etc. » à des gens, des amis, parfois, ou même des parents, et les autres disent « bah, pff, je veux dire, c'est quoi, tu crois, enfin, moi, on me l'a dit, hein, je veux dire, tu crois encore à ce truc-là, je veux dire, on m'a même dit, c'est des croyances de bonnes femmes, à moi, je veux dire, j'ai pas un visage très féminin, jusqu'à preuve du contraire. » C'est d'ailleurs ce que j'ai répondu, j'ai dit, est-ce que j'ai une tête de bonne femme, moi, je veux dire, alors, les gens, en général, ils disent « mais non, je sais pas ce que je voulais dire, enfin, moi, ils sont un peu gênés. » Mais ce sont des choses qu'on entend, parce que ça ne les concerne pas. Il y a quelque chose qui nous est personnel. Il y a une rencontre qui, à nous, véritablement. Mais j'ai des catéchumènes tout à l'heure qui m'ont saisi ça. Ils disent, c'est un Dieu qui est personnel. Le mot est sorti, carrément, vous voyez. Hein, et ils n'ont pas fait de théologie. Hein. Ils n'ont pas lu la Bible plusieurs fois. Ils n'ont pas lu le texte de la Samaritaine un nombre incalculable de fois. Mais pourtant, ils ressentent. Et c'est ça qui est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que chacun, chacune, quelle que soit notre manière de voir, de vivre, etc., a cette possibilité d'avoir cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et dans cette rencontre, de dire à Jésus, ou de remettre à Jésus, quelle que soit la manière dont vous l'imaginez, c'est lui remettre véritablement notre vie avec ce qui nous pèse particulièrement sur les épaules. Et c'est ça la bonne nouvelle. Le premier signe de la bonne nouvelle, c'est ça. Le premier signe du royaume, c'est ça. C'est que ça se passe dans nos vies, dans notre intimité, qu'on peut le partager après, comme le fait la joie de Bartimée dans son geste, ou comme le fait de la Samaritaine qui revient vers la vie. Vers la vie et vers la ville. Mais il y a d'autres textes que je ne vous ai pas lus, et auxquels j'ai pensé en rédigeant cette prédication. Il y a d'autres textes, et il y en a deux en particulier que j'ai retenu. C'est Emmaüs, et c'est l'histoire de Marie-Madeleine au tombeau. Parce que ce sont les mêmes histoires encore. Les compagnons d'Emmaüs, Cléopas et son copain, qui marchent sur la route d'Emmaüs la nuit, en descendant de Jérusalem, là il y a une douzaine de kilomètres à faire, et ils sont accablés par le deuil, véritablement. Et là c'est pareil, il y a une rencontre qui les concerne, ils discutent de manière personnelle, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous avez cette air sombre, etc. Donc ils discutent entre eux, jusqu'au moment où ils arrivent dans l'auberge d'Emmaüs. Et là, au partage du pain, ils réalisent qu'il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que pendant tout le trajet, Pendant tout le trajet, il y a un cheminement qui fait que ces hommes ont déposé aux pieds de Jésus le fardeau qui pesait sur leurs épaules, qui était le fardeau du deuil, plus ni moins. Et du coup, ils font comme la Samaritaine ou comme Bartimée, hop, ils vont remonter à Jérusalem vers la ville pour dire, il y a un truc qui s'est passé là. Je veux dire, on l'a rencontré et on lui a dit tout ce qui s'est passé ces jours-ci à Jérusalem. Hein, c'est-à-dire l'échec, la condamnation, la mort, la crucifixion, tout ça. Je veux dire, voilà. Et puis aussi cette hypothèse que rien n'est quand même perdu. Et c'est pareil avec Marie-Madeleine, qui est dans le deuil, elle est là, devant le tombeau, ouvert, avec dans le désespoir, etc. Et c'est pareil, il y a une rencontre avec Jésus, une rencontre ineffable. Je veux dire, c'est pas tout à fait de la même manière qu'avec les compagnons d'Emmaüs, c'est pas tout à fait de la même manière qu'avec la Samaritaine ou qu'avec le Bartimée, mais ce qui est la même démarche, c'est que Marie va prendre conscience qu'il y a quelque chose qui se passe et elle repart, elle aussi, vers la vie, vers les apôtres pour leur dire « Bon sang, mais c'est bien sûr, il est ressuscité. » Ce qui m'intéresse, quand je mets la Samaritaine, Bartimée d'un côté, Emmaüs et Marie-Madeleine de l'autre côté, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a les textes de vie. Que les deux derniers textes que je ne vous ai pas lus mais racontés sont des textes qui sont liés à la résurrection. Vous voyez, il raconte à peu près la même chose, à peu près la même structure de texte, mais il y a un lien entre les deux. C'est que l'annonce de la vie, l'annonce de la résurrection, l'annonce du royaume, elle est là dans notre intimité, dans des rencontres qu'on peut faire en lisant la Bible, qu'on peut faire ici, qu'on peut faire tout à l'heure en partageant, je ne sais pas, le repas ou le pot d'accueil qu'on peut faire chez soi, dans une rencontre n'importe quand, je veux dire, ça peut arriver n'importe quand. Qu'on a cette rencontre et qu'on peut dire à Jésus, voilà, voilà ma peine, voilà ma culpabilité, voilà ma cécité, voilà mon deuil, voilà ma souffrance, voilà ma joie aussi, pourquoi pas, hein, mais qu'à chaque fois, on puisse dire, bah, effectivement, il y a une puissance de vie qui est telle dans cette rencontre, et bien que on est comme soulevé et qu'on repart toujours dans la vie et dans la joie et dans l'espérance. Amen.